Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Avec Clément, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Fanny, Florence et Rebecca pour le 8e épisode de cette saison. Le thème de cette année, on vous le rappelle, est l'évolution de la communication dans l'histoire. Et aujourd'hui, on va vous parler du rôle essentiel de la communication en cas de crise. Nous sommes accompagnés d'Isabelle Maillferrière, responsable de la communication au sein du groupe EDF en Bourgogne-Franche-Comté, et de Cécile Hermier, chef du service régional et départemental de la communication interministérielle à la préfecture de Dijon. Tous deux sont ici pour nous apporter leur regard de professionnel sur le sujet. Comment protéger sa réputation et celle de son entreprise face à une situation de crise ? C'est ce dont nous allons discuter ensemble. Mais tout d'abord, Fanny, dis-nous, qu'est-ce qu'une crise ?
Alors la crise, c'est un terme que nous avons tous déjà entendu car les typologies sont nombreuses. Crise sanitaire, crise politique, crise économique. Le mot crise signifie toujours quelque chose d'anormal, quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on a hâte de voir finir. Il représente en quelque sorte une forme de rupture d'équilibre.
Qu'en est-il de la communication dans tout ça ? À quoi vient-elle servir ?
Eh bien, elle joue un rôle essentiel. En communication, c'est tout un processus de planification et d'exécution bien précis qui va être mis en place, surtout lors d'événements d'urgence ou sensibles, impliquant des parties prenantes et la société, par exemple. Cela implique de se préparer, de répondre et de surveiller les crises potentielles afin de maintenir une relation de confiance entre son entreprise et le public. L'objectif de la communication de crise est donc de prévenir ou de réduire toute perception négative associée à un incident. Pour y parvenir, les entreprises doivent mettre en place des plans d'urgence clairs qui décrivent comment ils traiteront tout problème potentiel qui surviendrait pendant une situation de crise. C'est pour ça que les organisations doivent toujours être prêtes à agir afin de rétablir la confiance et de minimiser les atteintes à leur réputation.
Et ces plans d'urgence que les communicants mettent en place pour faire face en cas de crise, comme tu l'as dit, ils ne datent pas d'hier. Florence, tu as des exemples notables de crises étant survenues à divers moments de l'histoire.
Alors avant 2020, le mot crise était souvent associé aux crises économiques, à cause du crash boursier lié à la bulle spéculative immobilière de 1929, au crash lié au surendettement de 1987 et à la crise des subprimes de 2008, qui ont toutes eu des effets dévastateurs au niveau mondial. Aujourd'hui, la crise est plus associée à la crise sanitaire à cause de la Covid-19, qui a eu un impact mondial sans précédent, incomparable même aux crises sanitaires les plus importantes de ces dernières années, comme celle de la grippe aviaire, de la vache folle ou du lait contaminé. Mais on retrouve aussi des grandes crises sur le plan géopolitique, comme les guerres ou bien les attentats.
En parlant des crises d'aujourd'hui, cela nous rappelle que le traitement de la gestion d'une communication de crise a bien évolué depuis l'avènement des réseaux sociaux numériques. Comment faisait-on avant, Cécile, et qu'est-ce qui a le plus changé depuis ?
Alors c'est évident qu'entre la com de crise de maintenant et la com d'il y a 20 ou 25 ans, il existe une énorme différence liée aux réseaux sociaux, liée à l'utilisation massive des applis sur les téléphones portables. Donc les réseaux sociaux, en fait, ils ont changé la donne parce qu'ils ont accéléré l'information et ils ont transformé... J'allais dire chaque citoyen en un témoin d'une actualité qui peut vouloir s'exprimer à tout moment, y compris pour énoncer des fausses informations, les fameuses fake news, ou répandre des rumeurs. On est donc contraints, nous, d'être fortement présents sur ces réseaux, tout en conservant, et c'est très important, nos outils classiques et notamment les relations que nous avons avec les médias et puis l'utilisation, bien sûr, de nos outils type site Internet. Mais il y a aussi une autre dimension, si je puis me permettre, pour répondre à votre question qui a fait évoluer notre com de crise. C'est surtout que les citoyens et en particulier les plus jeunes ne s'informent plus du tout de la même façon, voire ne s'informent plus du tout et ne vont pas chercher l'information. Donc nous, de notre côté, par exemple, le ministère de l'Intérieur a décidé que pour alerter en cas de crise, puisqu'il y a un risque de santé, un risque vital pour les personnes, de mettre en place ce nouveau dispositif qui est en cours de déploiement, qui s'appelle FR Alert, et qui permet d'envoyer un message d'alerte directement sur ce que chacun ne quitte jamais, à savoir son téléphone portable, sans avoir à s'être abonné à quoi que ce soit. Toute personne qui est dans une zone de danger recevra, j'allais dire de façon incontournable, un message sur son téléphone pour l'alerter du danger et se mettre à l'abri, le cas échéant.
C'est sûr que nous avons aujourd'hui accès à de plus en plus de ressources qui nous aident à mettre en place notre communication de crise. Il n'y a pas que notre utilisation des plateformes qui ont changé, d'ailleurs, mais aussi les compétences que les communicants doivent avoir ou développer pour faire face à une communication de crise. Quelles sont-elles, Isabelle ?
Effectivement, il faut développer certaines compétences pour se préparer à une gestion de crise. La communication de crise est une compétence encore peu développée chez les communicants généralistes, mais qui, selon moi, va devenir une compétence clé dans les prochaines années, y compris dans les postes de communicants généralistes. La communication de crise ne s'improvise pas. Il faut vraiment s'y préparer, avoir identifié les circuits internes de gestion de crise et surtout avoir positionné la fonction communication au bon niveau, d'après moi, dans le système de gestion de crise d'une entreprise ou d'une structure. Puis, dans un second temps, il faut préparer les outils dont vous pouvez potentiellement avoir besoin, c'est-à-dire les fichiers de contact externes, la trame de support de communication prête à l'emploi, avec, et c'est essentiel, des entraînements via des exercices de crise. Car le jour J, il faut avoir des réflexes, il faut aller vite. La gestion de crise ne s'improvise pas.
Et en deux mots, quelles seraient pour vous les compétences clés initiales que tout communicant doit avoir en cas de crise?
Les compétences clés sont, selon moi, les relations médias, le community management et bien sûr une expérience avérée via des exercices de crise pour acquérir une méthode. C'est important. J'ai participé dernièrement à un exercice de crise sur un accident ferroviaire avec la préfecture de Côte d'Or. Et cet exercice, s'entraîner à la gestion de crise, à la communication de crise, permet le développement, dans ce cadre-là, d'une culture commune avec les pouvoirs publics pour nous préparer à la crise.
Et développer ses compétences dans ces domaines, c'est vraiment la clé pour être en capacité de bien réagir en cas de crise. Que peut-on faire d'ailleurs dans ces cas-là pour rassurer la population et ainsi limiter les dégâts, si on peut dire, Rebecca?
Eh bien, on constate dans un pays comme la France, gérer la crise auprès de la population et de l'opinion publique est un élément en fait essentiel de ce domaine de la communication. Les crises peuvent avoir un impact considérable sur la population, qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, d'une crise sanitaire, d'un accident industriel ou d'une situation de violence. Donc dans de telles situations, en fait, les gens ils peuvent être vulnérables, anxieux ou encore à la recherche d'informations fiables. Et c'est pourquoi, en fait, il est important de gérer efficacement la communication de crise pour rassurer la population, fournir des informations précises et minimiser les effets négatifs de la crise. Donc une bonne gestion de la population, elle implique de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes concernées, comme par exemple l'évacuation d'une zone dangereuse, la fourniture de nourriture, d'eau potable, de médicaments. Et en ce sens, la communication de ces mesures, elle est essentielle pour éviter en fait la panique et rassurer la population. Donc la gestion de l'opinion publique, elle est également importante pour la communication de crise, puisque en fait le public peut avoir des perceptions différentes de la crise. Il est donc dès lors essentiel de communiquer efficacement pour éviter la confusion et donc eh bien, les malentendus.
Et cette gestion de la population et de l'opinion publique, comme tu l'as très bien dit, elle est essentielle pour rassurer la population et leur fournir des informations précises le plus vite possible. Et chose qui, par chance, est rendue possible aujourd'hui grâce aux outils que nous avons à portée de main. Mais qu'en était-il du coup avant l'avènement des réseaux sociaux numériques, Florence?
L'arrivée des réseaux sociaux, elle a révolutionné le contrôle de l'information et sa transmission, qui sont des points essentiels pour maîtriser et pour gérer une crise. Il y a encore quelques années, les personnes responsables de cette transmission, c'était soit les organismes eux-mêmes, comme par exemple les entreprises, les institutions publiques et les associations, soit des professionnels de l'information, comme les journalistes. Cela représente peu de personnes au niveau national. On compte en France 36 000 journalistes reconnus en 2012, soit un par commune. La quantité d'informations qu'ils peuvent traiter sera forcément soumise à une sélection. Il se passe trop de choses pour parler de tout. Les moyens de diffusion des informations fixent aussi des limites à la quantité d'informations que l'on peut rendre disponible au public. Et l'espace des pages d'un journal ou dans le temps d'un JT est limité. Les informations sont aussi forcément hiérarchisées avant d'être diffusées. Il était par exemple plus rare qu'un scandale à l'échelle locale atteigne le niveau national, ou du moins, il l'atteignait plus lentement, ce qui permettait de gérer des crises dans un environnement plus contrôlé. En parallèle, la diffusion d'une information à grande échelle était aussi limitée. Les places pour un contenu sponsorisé sont très très chères. Toutes ces limites garantissaient cependant que les informations qui arrivent jusqu'au public soient fiables et pertinentes, ce qui n'est pas le cas quand tout le monde est une source d'information et que tout est visible par tout le monde.
Comme tu viens de le dire, Florence, il était rare qu'un scandale à échelle locale atteigne le national. Mais les réseaux sociaux ont changé tout ça. Clément, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner?
Alors, vous souvenez-vous de Billy? C'est le nom d'un fox terrier qui avait fait beaucoup parler de lui en 2019. L'histoire se passe à Saint-Usage dans le sud de la Côte d'Or. Billy et son maître se promènent sur le bord du canal de Bourgogne, mais le chien finit par se retrouver coincé dans un tunnel qui passait sous le canal. Le maître alerte donc logiquement les pompiers. 3 secouristes sont intervenus, mais en vain. Le préfet a ensuite renoncé à envoyer d'autres personnes, le risque étant trop élevé pour assurer la sécurité des sauveteurs. On aurait pu en rester à un simple fait divers, mais les associations de défense animale se sont emparées du sujet sur les réseaux sociaux. Ça a fait couler beaucoup d'encre, aussi bien sur Internet que dans la presse nationale, et beaucoup réclamaient que Billy soit sauvé, quel qu'en soit le prix. La préfecture a alors rappelé que les interventions de spéléologues volontaires n'étaient pas interdites, mais fortement déconseillées, et finalement, tout s'est arrangé pour Billy, qui a pu être sauvé grâce notamment à une équipe de volontaires.
Et cette affaire de Billy le chien a fait le tour de la Bourgogne en un rien de temps. Heureusement, comme tu le dis, la crise s'est résolue aussi vite qu'elle est apparue. On peut dire que la communication de crise sait gérer la tempête en attendant le retour du soleil, et entre la pluie et le beau temps apparaît souvent un arc-en-ciel. Nous vous avions diffusé les Beatles en octobre, alors pour ne pas faire de jaloux, on écoute tout de suite She's the Rainbow des Rolling Stones. On se retrouve juste après sur RCF en Bourgogne.
Sur RCF en Bourgogne avec les étudiants du master Massy spécialisé en stratégie de communication internationale, Clément Michelot.
Vous écoutez bien l'émission Curious Live. Nous vous parlions avec Clément, Fanny, Florence et Rebecca du rôle essentiel de la communication en cas de crise. Nous sommes accompagnés d'Isabelle Maille-Ferrière, responsable de la communication au sein du groupe EDF en Bourgogne-Franche-Comté, et de Cécile Hermier, chef du service régional et départemental de la communication interministérielle à la préfecture de Dijon. On vous en parlait en début d'émission, tout se déroule à la vitesse de la lumière lors d'une crise, les entreprises n'y font pas exception. Quelles sont les limites aujourd'hui de cette circulation rapide d'informations, Rebecca ?
Eh bien, on le sait, l'information en situation de crise dans une entreprise circule rapidement aujourd'hui, et ça s'explique notamment par la vitesse à laquelle les informations se propagent sur, d'une part, les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela peut entraîner une diffusion d'informations erronées ou même faussées, en fait parce que les messages peuvent tout simplement être amplifiés, déformés ou sortis de leur contexte parce qu'ils sont partagés rapidement et massivement. Donc il est crucial en fait d'être très réactif en communication de crise pour différentes raisons. La première, ce serait gérer la situation rapidement. Dans une situation de crise, chaque minute compte, on le sait, pour minimiser les effets négatifs de la crise sur l'entreprise, ses employés et ses parties prenantes. Ça permet aussi d'éviter la propagation de rumeurs ou d'informations inexactes, ce qui peut créer de la confusion et de l'anxiété chez les employés et les parties prenantes. Donc de cette façon, en étant proactif dans la communication, l'entreprise elle peut contrôler les informations diffusées et donc éviter la propagation de rumeurs. Ensuite, ça vient également renforcer la confiance et la crédibilité de l'entreprise. Les parties prenantes, elles ont besoin de savoir que l'entreprise prend la situation au sérieux et qu'elle travaille pour résoudre le problème de manière rapide et efficace. Et enfin, je dirais qu'être très réactif, ça permet de préserver la réputation de l'entreprise qui peut à ce moment-là, être gravement affecté en cas de crise. Donc communiquer de façon réactive, c'est le moyen pour l'entreprise d'atténuer les effets négatifs sur sa réputation et bien sûr sur la confiance de ses parties prenantes.
Et le manque de temps pour veiller à éviter la propagation de rumeurs est un réel enjeu pour les communicants face à une situation de crise. Qu'est-ce qui va donc permettre de communiquer efficacement lors d'une crise, Fanny ?
Alors l'enjeu principal de toute communication de crise est la réputation de l'entreprise, surtout de la manière dont celle-ci est perçue par le public. C'est pourquoi il est primordial d'être avant tout attentif et d'analyser la formation de cette crise. Cela permettra aussi de mesurer l'ampleur qu'elle a prise, que ce soit dans la presse, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Dès que le problème est identifié, il est important de communiquer rapidement et de manière transparente avec sa communauté pour expliquer la situation et les actions mises en place pour la résoudre. Montrer une réaction et une écoute attentive aux commentaires peut aider à comprendre les attentes et les besoins de chacun, et montrer l'implication qu'a l'entreprise sur ses motivations à solutionner le problème rencontré. Si le problème relève de nous ou de notre entreprise, il faudra assumer ses responsabilités et prendre en main ce que l'on peut faire pour changer la situation. Une fois une crise passée, on est entre guillemets préparé pour les prochaines et nous serons capables de tirer des leçons de la situation et mettre en place des nouvelles mesures afin que cela ne se reproduise pas.
Et une fois que le problème se trouvant au cœur de la crise a été identifié, quels sont les outils de communication dont les entreprises doivent se doter pour réagir efficacement lors d'une communication de crise, Cécile ?
Alors le but, c'est d'anticiper au maximum, hein, pour ne rien avoir à inventer le jour de la crise. Il y a énormément de choses qu'on peut préparer en amont. Tout le temps qu'on gagne en amont, effectivement, c'est un temps qui est inestimable dans la gestion de crise. Donc au titre des outils, le premier que je citerai, c'est 1. Connaître parfaitement les risques auxquels s'expose l'entreprise. Ensuite, il faut connaître en amont les acteurs avec qui on va interagir en cas de crise. Donc des acteurs, ils peuvent être multiples, et il faut connaître leur degré d'engagement. Donc, par exemple, quand on est dans une entreprise, bien connaître le système hiérarchique, les dirigeants. Ensuite, en point 3, il faut identifier clairement la chaîne de décision et de validation de l'information. Il faut savoir très exactement qui serait amené à décider et à valider une information qu'on pourrait créer et diffuser. Ensuite, il faut identifier qui serait appelé en cellule de crise. Ensuite, il faut identifier qui serait le porte-parole en cas de sollicitation médiatique, parce que ça ne va pas de soi. Ça peut être le dirigeant, mais ça peut être un porte-parole, ça peut être quelqu'un du groupe au niveau national. Bien évidemment, comme je l'ai dit, connaître les médias qui pourraient nous solliciter, ça veut dire connaître son réseau de médias locaux, mais également, pourquoi pas, des médias qui pourraient nous appeler au niveau international ou national, selon la dimension de la crise. Il faut connaître les outils qui pourraient être mobilisés pendant cette crise. Donc, est-ce qu'on a, par exemple, un communiqué de presse tout prêt ? Est-ce qu'on a une salle de presse pour une conférence ? Est-ce qu'on a des moyens en visio pour une conférence de presse à distance ? Est-ce qu'on a des réseaux sociaux dans l'entreprise ? Est-ce qu'on a un site internet ? Ensuite, il faut préparer une sorte de vade-mecum avec tout ce qui sera utile le jour de la crise, donc les codes d'accès ou de connexion, un listing média à jour, des modèles de communiqué, et voire même des modèles de poste pour nos réseaux sociaux qui soient préparés. Et enfin, il faut, je dirais, préparer une sorte de grille d'analyse qui nous servira le jour de la crise. Cette grille d'analyse, vous la dégainerez dès le début de la crise.
Et cette grille, elle permet de définir les publics ciblés, les objectifs de communication, les faits, les incertitudes, les axes du discours ou encore de penser à la post-crise. Ce peut être du coup tentant de sauter l'une de ces étapes importantes en pensant pouvoir passer plutôt à la phase de solution. Clément, quelles sont donc les erreurs les plus communément faites lors de la gestion d'une communication de crise ? Est-ce que tu aurais des exemples ?
Alors oui, on va parler encore une fois de la crise Covid. Et ce qui a été le plus problématique dans la communication autour de cette crise, ce sont les débuts. Et c'est un problème en fait qui revient fréquemment, c'est le manque de préparation ou d'anticipation. Et ça, on l'a bien vu au début, le gouvernement changeait très rapidement de discours et de position. Alors je pense notamment à la question du port du masque, qui a beaucoup fait débat dès les premiers mois de pandémie. Et au fil des mois, il y a tout de même eu une amélioration avec un schéma beaucoup plus logique et donc une meilleure gestion de crise, notamment dans les prises de parole. Plus les décisions et les informations à transmettre étaient importantes, plus le porte-parole était haut placé. Ce qui fait que, selon l'interlocuteur, on avait déjà une idée de ce à quoi nous attendre. Par exemple, quand les informations étaient plutôt de routine, c'était Olivier Véran qui s'exprimait. Quand c'était un peu plus sérieux, un peu plus important, c'était Jean Castex. Et quand c'était vraiment, vraiment très important, là, c'était Emmanuel Macron qui s'exprimait pour les confinements, par exemple.
Alors, comment expliquer les échecs du début de cette crise ?
Alors, comme je le disais, la première des raisons, c'est le manque de préparation. Le gouvernement n'était clairement pas prêt à subir une telle crise, à la fois sur le plan communicationnel que matériel. Mais ça, au final, c'était propre à chaque gouvernement, à chaque pays, parce que peu de personnes se seraient doutées de la dimension que la crise allait prendre en début d'année 2020. Et ça explique donc ces discours très contradictoires les premiers mois. Et puis, la deuxième des raisons, c'est la crise en elle-même. C'était un virus inconnu, on apprenait un peu plus tous les jours. Il est donc logique que les discours et les décisions changent au fil du temps, mais ça a logiquement aussi entraîné un sentiment de défiance vis-à-vis des autorités publiques, étant donné que les discours pouvaient totalement varier d'un mois à l'autre, voire parfois le jour même. Et dans des périodes de crise, la défiance du peuple ou de ses clients lorsqu'on est une entreprise, c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter.
Vous l'aurez donc compris, le mot d'ordre est la préparation. C'est déjà la fin de cette émission, merci à vous de votre écoute. Un grand merci à nos deux intervenantes, Isabelle Maille-Ferrière et Cécile Hermier, pour nous éclairer sur le sujet. Merci également à nos chroniqueuses du mois, Fanny, Florence et Rebecca. Quant à nous, on vous donne rendez-vous avec Clément le mois prochain pour échanger sur une nouvelle thématique. À bientôt, 18h30 sur RCF, votre journal local.